De retour à l'émission Au gré du temps, en compagnie de Julie Beauregard-Maillé. Julie, le temps nous bouscule toujours et avec vous, il y a tellement de choses qu'on voudrait embrasser en termes de sujets. Parlez-moi de théâtre, parce que...
Ah ben oui, on en a peu parlé.
Très peu parlé.
C'est vrai, j'aime ça. Ben oui, le théâtre, dans le fond, c'est entré dans ma vie grâce à mon grand-père, dans le fond. Je me souviens, à 9 ans, il m'avait demandé, parce que lui, il était toujours en avance sur la technologie. Alors, il y avait une caméra, il était très, très jeune. J'ai eu la chance de le voir jeune à la caméra. Et puis, par la suite, quand on est arrivé, il s'est acheté de meilleures caméras. Et à un moment donné, il me dit, il voulait filmer tous ses petits-enfants dans une pièce de théâtre. Puis il me dit, Julie, tu vas l'écrire. Ah ben, j'ai dit, coudonc. Comment ça se fait qu'il a choisi moi parmi tous ses petits-enfants pour l'écrire? Je sais pas, mais il m'a dit, je vais t'aider. Et puis, je me suis mise à écrire ça. J'ai eu un plaisir fou. Je l'ai interprété aussi. J'ai distribué les rôles. Et puis, tranquillement, c'est devenu une tradition. À chaque fois qu'on se voyait, moi et mon grand-père, on faisait une scène devant la famille. Donc, ça a été du Molière. On a joué toutes sortes de choses. Ça a été des fois des Fables de La Fontaine aussi, tout simplement. Et puis, tranquillement, c'est venu le goût parce qu'il y avait aussi, j'ai commencé à un moment donné à écrire une pièce de théâtre à 16 ans que j'ai jamais terminée, mais le théâtre au secondaire, j'en faisais. Et par la suite, ça a été, j'aime les mots. J'aime les mots, c'est pas pour rien que j'écris. Donc, c'est un peu ça aussi, être acteur. Je pense qu'il faut aimer les mots pour être acteur. Alors, je me suis... Il faut aimer aussi moi, c'est la psychologie humaine aussi, que je retiens, de découvrir comment fonctionne l'être humain. Alors, donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers ça et j'ai appris beaucoup. Et puis, mon Dieu, je me rappelle de plein de beaux textes. Je pense, entre autres, je reviens encore sur l'époque avec mon grand-père, mais à un moment donné, il m'avait demandé de réciter un texte de Rudyard Kipling. Si tu étais un homme, mon fils. Ah, c'est tellement un beau texte. Il y a tellement des belles choses qui se sont écrites. Bon, on n'est pas tout à fait dans le théâtre, mais je me souviens d'avoir récité ça au 50e anniversaire de mariage de mes grands-parents. Puis, ce que j'ai vu très récemment, parce qu'on a transféré les cassettes VHS sur des DVD, et j'aperçois mon grand-père à la fin du monologue qui baisse la tête et puis il est submergé par l'émotion. Il est incapable d'applaudir comme les autres. Et puis là, j'ai vu ce que j'avais pas vu finalement, qui avait été très touché. Et puis, c'est ça, c'est lui qui m'a donné ce goût-là et cet amour-là des choses bien faites. De quand tu fais quelque chose, fais le bien. Alors, c'est ça. Peu importe ce que je fais dans la vie, j'ai toujours ça en arrière-plan.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part. Aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Je sais si je malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler.
Julie Beauregard-Maillet, on peut vous voir où maintenant? Bien sûr, vous êtes directrice de marketing dans une grande entreprise, la familiale d'ailleurs. Mm-hmm. Mais est-ce que vous avez encore ce désir de vous retrouver sur les planches, comme mm-hmm. vous le faisiez devant la caméra de votre grand-papa?
Ben, en fait... Il faudrait venir me chercher parce que pas nécessairement, je sens pas nécessairement le désir, mais ça prendrait pas grand-chose, ça,
mais
c'est sûr.
Mais c'est un peu ça d'ailleurs oui. qui a fait en sorte que vous vous êtes redirigé parce que
oui.
c'est un métier difficile au plan de... du travail continu.
C'est ça. C'est qu'à un moment donné, moi, je suis pas le genre justement à attendre que le téléphone sonne. J'ai trop d'énergie pour ça. Il y a trop de choses que j'aime faire. Je suis curieuse. Alors oui, donc je vais au-devant des choses. Mais il y a une chose, c'est sûr, j'ai fait le tour, mais toutes mes passions que j'avais envie de développer à l'adolescence, j'avais, bon, la radio, le côté comédienne, les communications de journaliste. Et là, j'étais rendue à l'écriture. Puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et puis, j'ai eu un moment donné dans ma vie, au début de la trentaine, où il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Puis j'ai eu l'idée d'écrire un livre avec ça, mais de ne pas se prendre au sérieux.
Et qui a pour titre?
Chronique d'une célibataire trentenaire. Et puis, je me suis dit, je me prends pas au sérieux, naturellement. Je me suis dit, pour commencer, premier livre...
Et qui vous prendrait pas au sérieux?
Je me suis dit, pour commencer, premier livre, c'est probablement la meilleure chose à faire. Écrire quelque chose qui est un peu chick-lit, comme on
oui.
dit. La littérature pour filles.
Oui.
Et beaucoup d'humour. Et puis, sous forme, justement, de petites chroniques. Comment, parce que rencontrer aujourd'hui, en 2016, c'est autre chose que de rencontrer, à l'époque de Bridget Jones, le journal de Bridget Jones. Là, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux aussi. Alors, il y avait tellement... Et tout le monde était célibataire alentour de moi en même temps. Puis j'entendais tellement d'anecdotes. Alors, j'ai dit, je vais mettre ça dans mon livre. Et les gens, c'est tellement drôle parce qu'alentour de moi, ils ont eu peur au début de lire, de dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais trouver? Mais j'ai réussi à mêler fiction avec ça parce que je voulais pas juste raconter des... Je voulais qu'il y ait un peu plus de densité, de s'en aller quelque part aussi, d'avoir une ligne directrice. Alors, c'est là-dedans vraiment que je me tourne. J'ai déjà une autre idée de roman, en tête. Et c'est pour ça que je suis aussi allée me perfectionner à l'université en création littéraire. Ça, c'est important pour moi.
Vous étudiez toujours, d'ailleurs.
Oui, parce que l'écriture, c'est ça que je dis. L'écriture journalistique, c'est très différent
Absolument.
De l'écriture. Alors, j'avais à réapprendre certaines choses parce qu'en écriture journalistique, on fait toujours au plus court. Hein? Si t'es le mot n'est pas nécessaire, on l'enlève. Alors, donc, j'ai eu à... Puis, il y a un certain plaisir, comme me disait mon prof l'autre jour, il dit, Julie, toi, t'aimes ça, là, vraiment, t'es dans les faits et tout, mais il y a un certain plaisir dans l'allusion, Julie.
Alors, dans les détails.
C'est pour ça que je vais à l'université. Puis, ça, finalement, la période célibataire a pris fin. Et j'ai rencontré quelqu'un qui est...
C'est pas Paul McCartney, j'espère.
Non, j'aurais aimé ça, mais savez-vous quoi? Il y a quelque chose, hein, d'ailleurs, j'adore Paul McCartney. Et il joue plusieurs guitares, plusieurs styles de guitare.
Il me semblait, d'ailleurs.
Ah oui, il y a quelque chose. Et donc, c'est ça, il m'a fait découvrir certaines chansons. Et une qu'on chantait ensemble au début quand on s'est rencontrés, c'est « Wish You Were Here » de Pink Floyd. J'aurais aimé ça que tu sois là avant, t'sais? C'est ça.
So you think you could tell
heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell?
Pink Floyd, vraiment, on parle d'éclectisme parce que tantôt, on a entendu La Quête avec Shirley Theroux, une merveilleuse interprétation d'ailleurs de Shirley Theroux, de cette chanson de Brel. Là, on vient d'entendre Pink Floyd. Ce sont les choix de Julie Beauregard-Maillé, une femme qui est très, très présente et qui, peut-on le dire, prend la vie dans la bonne direction, malgré le fait que votre enfance n'a pas été facile et vous l'avez déjà mentionné.
Oui, mais pas, c'est pas juste mon enfance aussi. Il y a eu, dans la vingtaine, j'ai eu certaines... Je peux en parler, parce que...
Période dépressive?
Ah, oui, il n'y a pas de honte à ça. Absolument J'étais pas. Gênée d'avouer ça, moi, avant. C'était... Comment je pourrais dire? D'abord, faut que je le dise. Commençons par le début, oui. Si vous voulez savoir
oui.
tout.
On veut tout savoir.
J'ai commencé quand j'étais... J'ai déménagé ici à Montréal à 17 ans. J'étais un peu jeune. Je restais en chambre et tout. Et j'ai tombé un petit peu dans, j'allais dire, l'enfer. Pas l'enfer de la drogue, mais l'enfer de l'anorexie. J'étais anorexique pendant un an. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais il y a eu cette période-là. Bon, J'ai un côté très perfectionniste, très en contrôle aussi. J'aime ça. Oui, j'aime ça m'éclater, mais je suis quelqu'un qui aime être en contrôle. Mm-hmm. Et puis là, j'avais plus de contrôle sur rien. Quand je suis arrivée à Montréal, c'était pas tout à fait comme je voulais que ça se passe au niveau des études. Il y avait des choses qui devaient me contrarier. Et puis, je me suis réfugiée là-dedans. J'ai dit, tiens, ça, j'ai un contrôle. Je suis convaincue que pour beaucoup de jeunes filles, ça se passe comme
ah,
ça.
Oui.
Et puis, j'ai pas d'honte à l'avouer. Je m'en suis bien sortie. Il y a des gens, puis je remercie les gens comme ma mère ou comme mon médecin qui m'a vraiment dit les yeux dans les yeux, tu es anorexique. Et ça, c'est important de se le faire dire comme ça. Puis, j'ai eu du support, tout a bien été. J'ai aussi découvert que j'avais un trouble d'anxiété généralisé. Ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, on m'a dit, il y a un autre spécialiste qui m'a dit, là, oublie ça, tu l'as pu. Je reste quelqu'un de très, une personne très anxieuse, mais à l'époque, j'étais vraiment anxieuse avec un rien, là, tu sais. Et puis, j'ai pas d'honte, je m'en cache pas, j'ai même dû prendre des anxiolytiques durant une bonne partie de ma vingtaine.
Il faut pas avoir peur de parler de ce genre de choses.
Non, parce que...
Il faut démystifier cette maladie. Parce
c'est
que
ça.
C'est une maladie, l'anxiété.
Oui.
De pouvoir avoir de la difficulté à confronter certaines situations. Mais
tout à fait.
On peut maîtriser, on peut apprendre à maîtriser son anxiété.
Exactement. Puis je pense qu'il ne faut pas... Moi, c'est ça. Il y a une chose, par exemple, j'ai trouvé que j'ai pris des médicaments un peu trop longtemps pour ça parce que on m'a dit, t'as un trouble d'anxiété généralisé. On appelle ça un TAG. Hein? Alors ouais. Là, on t'accole une étiquette et là, tu penses que t'es handicapé, là, en somme. Et à un moment donné, j'ai réalisé que vers la fin, autour de 27 ans, j'ai dit non, là, c'est fini, les médicaments. Je voulais apprendre à vivre avec qui j'étais, tout simplement. Puis je suis une personne très sensible. Alors, avec les anxiolytiques, veux pas, ça mettait un... Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'en diminuant tranquillement les médicaments, j'ai appris à gérer non seulement mon anxiété, mais moi, ma sensibilité. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, puis ça, je n'oublierai jamais ça. Il dit, tu sais, Julie... de ce que je vois, t'as été bonne dans tout ce que t'as fait. Puis il y a une raison à ça. C'est à cause de ta sensibilité. Alors, au lieu de le voir comme un défaut, je me suis mise à le voir comme une qualité.
Et on a tellement de difficultés à vouloir prendre conscience de ses propres émotions,
oui.
De reconnaître aussi ses forces, ses faiblesses.
Oui.
Et il n'y a pas, comme vous le disiez, de honte à savoir que sous certains aspects, non, je ne suis pas le plus fort ou la plus forte,
oui.
Mais sous d'autres, par contre, là, je prends toute ma place. Et il y a un ami à moi qui disait tout récemment, lorsqu'il est passé ici, j'ai appris dans la vie que lorsqu'on arrive sans arrogance, mais sans complexe, on peut faire sa place partout. Pas de complexe d'infériorité ou de supériorité,
oui.
Mais surtout pas d'arrogance, et
oui.
On réussit à faire son bout de chemin.
Exactement. C'est comme ça qu'il faut le voir, avec humilité. Et puis, si on savait, notre voisin, il a vécu des choses lui aussi. Alors, faut pas s'arrêter à ça et se dire, mon Dieu, pauvre de moi, tu sais, je suis différente. Non, non. Oui, chaque personne est unique. Et puis, la situation évolue. Il faut jamais oublier ça. À une certaine étape de notre vie, oui, dans la vingtaine, moi, j'avais des périodes de déprime causées par mon anxiété. Mais les choses évoluent. Il faut, c'est pas statique, ça. Ça peut s'améliorer.
Julie, ça tombe tellement bien parce que vous nous proposez cette belle pièce « L'amour est un oiseau rebelle ». On va entendre Marie-Josée Laure et l'Orchestre métropolitain sous la direction de Giuseppe Pietro Noia. C'est une pièce qui fait en sorte que, oui, on peut avoir un petit côté rebelle en soi, mais l'amour est toujours présent dans la vie.
Tout à fait.
Oh,
Julie, avant qu'on termine cette émission, il faut absolument que je vous demande, qu'est-ce qui vous allume, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vivre? En deux mots, là, rapidement.
Je pense que c'est pas compliqué. C'est tout simplement de dire, j'ai perdu plusieurs personnes dans mon entourage ces dernières années. Puis, je réalise à quel point la vie, c'est dans les petits moments. C'est dans les petites choses qu'on trouve le bonheur. On le dit, c'est souvent cliché. Mais il faut pas... c'est ça. C'est juste d'être... ma grand-mère m'avait dit un jour... tu sais, Julie, j'avais demandé pourquoi grand-maman, parce qu'elle décédait à 95 ans, pourquoi grand-maman, qu'est-ce qui fait que vous êtes restée aussi jeune toutes ces années? Parce qu'elle a gardé son cœur d'enfant. Puis elle m'avait dit, je n'ai jamais cessé de m'émerveiller. Puis j'ai trouvé ça tellement beau. C'est vrai que...
La capacité de l'émerveillement.
Oui, c'est ça qui fait que... Oh, ça nous garde jeunes, ça nous garde en vie. Puis moi, c'est tout simplement ça.
Alors, à l'opposé, qu'est-ce qui vous éteint?
Ah, mon Dieu! C'est sûr qu'il y en a des choses. Il y a une chose, je dirais pas, je suis pas assez rare que je suis éteinte, mais il y a des choses qui me mettent en colère. L'injustice, moi, c'est quelque chose que je supporte mal. Quand il arrive une injustice à quelqu'un, là, je suis prête à monter aux barricades. Il y a des choses comme ça que tu dis, ou par exemple, dans le monde dans lequel on est actuellement, bon, on a un petit peu de terreur, ou tu sais, on a peur, on est rendu craintif de son prochain. Je me dis, hey, faut pas oublier qu'après les attentats le 13 novembre, il y a quelqu'un qui est descendu dans la rue, qui a amené son piano, puis qui a joué John Lennon, Imagine. Et tout le monde, ça s'est répandu partout à travers le monde, tout le monde entendait ça, voulait écouter ça. Et si nos dirigeants étaient peut-être plus à l'écoute, peut-être qu'ils se rendraient compte qu'effectivement, quand il arrive des choses comme ça, c'est pas de réagir qui demande la plus grande force. C'est de tout simplement dire, on ne fera rien. On ne fera rien et ça va s'estomper. Ça va, mais c'est sûr que c'est terrible pour les familles. Ça se fait pas à ce moment-là. C'est ça qui est difficile.
Mais ça veut tout simplement dire que la présence, ne rien faire ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire de laisser la place à quelques mots d'amour.
Oui, oui.
Laisser l'espace s'occuper de la suite des choses.
Exactement.
On va se quitter sur ces paroles merveilleuses de Julie Beauregard-Maillé. Merci beaucoup d'avoir été là au cours des deux dernières semaines.
Merci
on va,
à vous.
On va se remémorer tout ce que vous nous avez dit parce que vous nous en avez dit des choses.
Merci beaucoup.
Puis on va vous souhaiter plein de succès. Vous nous donnez le goût de vous réinviter parce que je pense qu'on n'a même pas effleuré le carré ou le petit coin du carré de votre terrain.
Ah, il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, je reviens si vous voulez.
Merci beaucoup. C'était l'émission Au gré du temps qui a été réalisée par celui qui vous parle et qui anime cette émission sous la supervision technique de Vital Côté, Armand Dubois. Soyez des nôtres la semaine prochaine. D'ici là, demeurez à l'antenne. D'autres belles émissions vous seront offertes. C'était Julie Beauregard-Maillé et comme elle nous a parlé d'amour, ben on va se quitter sur cette belle chanson. Vous serez d'accord avec moi, Julie. Michel Sardou, quelques mots d'amour.
Tout à fait, tout simplement.
Au revoir.
Les jours se font de plus en plus longs, de plus en plus gris. Quand les filles s'étonnent de trouver des hommes couchés dans leur lit. Quelques mots d'amour qu'elles ont cru un jour avant d'être femmes, avant d'être aimées. Quelques mots d'amour qu'on leur dit toujours pour sécher leurs larmes quand on ne sait plus quoi inventer. S'éteignent parce que le cœur saigne, parce qu'elles ont envie, parce qu'elles voudraient s'entendre dire juste avant le dernier soupir ces quelques mots, quelques mots. Sécher